VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Seguglia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 6 villageois Dogon ont été tués après le meurtre de 160 peuls dans le centre du pays. L'ONU appelle au calme.
Au Comores, le président Azali Assoumani a été réélu à une majorité écrasante. L'opposition dénonce un coup d'État.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée semble ouvrir la voie à un départ du président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue.
La Syrie demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la reconnaissance américaine de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 6 habitants de village Dogon, dans le centre du pays, ont été tués dans des attaques distinctes. C'est ce qu'a appris hier l'AFP auprès d'élus locaux, d'une source de sécurité et de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Ces dernières attaques font suite à la tuerie commise dans la même région samedi par des chasseurs Dogon présumés et qui a fait au moins 160 morts dans le village Peul d'Ogossagou. Cette spirale de la violence doit cesser immédiatement, a affirmé la MINUSMA dans un communiqué réagissant à cet enchaînement d'attaques.
Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est attendu la semaine prochaine ici aux États-Unis. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Félix Tshisekedi sera notamment reçu par le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, a annoncé hier le département d'État. Son porte-parole Robert Paladino a également dit en réponse à une question n'avoir rien à annoncer pour l'instant quant à une rencontre entre le président congolais et son homologue Donald Trump. M. Paladino a ajouté que pendant cette visite du 3 au 5 avril, il sera question de la détermination de Washington à travailler avec M. Tshisekedi pour, je cite, « la mise en œuvre de son programme visant à combattre la corruption, renforcer l'état de droit, améliorer la sécurité, protéger les droits de l'homme et promouvoir la croissance économique par une hausse des investissements étrangers du commerce, notamment avec les États-Unis ». Fin de citation. Nous soutenons l'engagement du président Tshisekedi à apporter le changement que le peuple congolais réclame et mérite, a encore dit M. Paladino. La coopération pour venir à bout de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC sera aussi à l'ordre du jour.
En rapport avec le Congo-Brazzaville, un homme tué par balle la semaine dernière en Haute-Savoie, en France, était bien Daniel Forestier, 57 ans, un ancien agent des services de renseignement à la DGSE, selon son avocat cité par l'AFP. Il était soupçonné depuis l'automne d'avoir projeté l'assassinat en région parisienne du général Ferdinand Mbaou, un opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, réfugié en France depuis près de 20 ans. En septembre, Daniel Forestier et un autre ex-agent des services de renseignement extérieur français avaient été inculpés dans cette affaire d'association de malfaiteurs et de détention d'explosifs. Un troisième homme avait été placé sous le statut de témoin assisté.
Au Comores, le président sortant, Azali Assoumani, a été réélu dès le premier tour, selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. L'opposition dénonce, je cite, un coup d'État. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Azali Assoumani a recueilli 60,77% des suffrages, devançant son principal adversaire Mahamoudou Ahmada, qui a obtenu 14,62%. Ce dernier a immédiatement rejeté les résultats, dénonçant un coup d'État militaire à travers une élection présidentielle. Il a appelé la communauté internationale à ne jamais reconnaître la réélection de M. Azali. Un peu plus tôt, la plateforme citoyenne, un collectif d'ONG, avait affirmé que les résultats n'auront aucune crédibilité. Les observateurs de l'Union africaine de la COMESA ont déploré des incidents lors du scrutin. Ils ont soutenu que la situation empêche de se prononcer de façon objective sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Le camp présidentiel a balayé d'un revers de main toutes ces critiques.
En Algérie, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, a proposé hier que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la rue, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne. Le point avec Raissa Girondin.
Le général Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense, est considéré comme l'un des personnages les plus puissants du régime, a prôné le lancement de la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, applicable quand le président, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions ou en cas de démission. Ce sont les deux chambres du Parlement qui, sur proposition du Conseil constitutionnel, doivent voter à la majorité des deux tiers l'état d'empêchement. La balle est donc dans le camp de M. Bouteflika. S'il choisit de démissionner, ou dans celui du Conseil constitutionnel, Taïeb Belaïd, à qui il revient de lancer la procédure pour déclarer le président inapte à exercer ses fonctions. Âgé de 82 ans et au pouvoir depuis 1999, M. Bouteflika est affaibli par les séquelles d'un AVC. L'annonce de sa candidature à un cinquième mandat a déclenché des manifestations massives dans le pays. Face à la pression de la rue, le président a renoncé à cette candidature et a reporté sine die la présidentielle prévue le 18 avril. Il a prolongé de fait son mandat actuel, ce que rejettent toujours les manifestants.
Le Kenya prévoit de fermer d'ici au mois d'août le camp de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés en Afrique. Les précisions d'Irénée Herman Ongbo.
Selon un document du HCR daté du 28 février, le gouvernement kényan a envoyé le 19 février une note verbale l'informant sur le projet de fermer le camp de Dadaab dans un délai de 6 mois. La note demande ainsi à l'organisation d'accélérer la réinstallation des réfugiés et des demandeurs d'asile qui y résident. Dans le document, le HCR atteste de sa volonté de travailler avec le gouvernement à la fois au retour volontaire dans les pays d'origine et à la réinstallation des réfugiés dans d'autres camps ou dans des pays. Le camp de Dadaab héberge quelque 230 000 personnes, en grande majorité des Somaliens, depuis le début de la guerre civile en 1991. Un travailleur humanitaire de Dadaab a déclaré que toutes les ONG travaillant sur place sont au courant de ce projet de fermeture sur lequel le gouvernement fait profil bas. En mai 2016, Nairobi avait unilatéralement décidé de fermer le camp, qui comptait alors 320 000 personnes, le désignant comme un terrain d'entraînement pour les Chebabs somaliens.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Une roquette a été tirée de Gaza hier soir en direction d'Israël, menaçant une trêve qui semblait tenir au lendemain d'un nouvel accès de violence. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a prévenu qu'il était prêt à ordonner une offensive, si nécessaire, à 2 semaines des élections législatives en Israël.
La Syrie a demandé hier une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour discuter de la souveraineté sur le plateau du Golan annexé par Israël et que le président américain Donald Trump considère aussi maintenant comme israélien. Pour leur part, les 5 pays européens, membres du Conseil de sécurité, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique et la Pologne, ont rejeté hier, dans une déclaration conjointe, cette décision américaine. Le point avec Abdourahman Dia.
En application des résolutions de l'ONU, nous ne reconnaissons pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés depuis 1967, incluant le plateau du Golan, ont souligné les ambassadeurs de ces pays européens à l'ONU. Le plateau du Golan a été conquis en 1967 par l'État hébreu, qu'il a ensuite annexé en 1981. La décision annoncée lundi par le président Donald Trump de reconnaître l'annexion du Golan est une violation très grave du droit international, a souligné l'Indonésie, qualifiant cette décision de totalement inacceptable. L'Arabie Saoudite, pour qui le Golan demeure une terre arabe syrienne occupée, et l'Irak ont condamné l'annonce de Trump, emboîtant le pas au Koweït, à la Jordanie et au Liban. L'Égypte avait rappelé la résolution 497 de l'ONU rejetant l'annexion du Golan par Israël. La Ligue arabe a estimé que cette décision américaine est nulle et non avenue. Après les décisions sur Jérusalem puis sur le Golan, l'initiative de paix israélo-palestinienne dirigée par Jared Kushner, conseiller et gendre de Donald Trump, semble avoir pris du plomb dans l'aile.
Le président Donald Trump a affirmé hier que le monde entier condamne les médias américains pour leur couverture pendant 2 ans de ce qu'il a appelé ce délire de la collusion russe, tout en sachant qu'il n'y avait pas de collusion. Il leur est reproché, selon lui, d'être corrompu et pourvoyeur de fausses informations. M. Trump a encore qualifié ces médias d'ennemis du peuple et aussi de véritables partis d'opposition. Le rapport de M. Mueller, selon le ministre de la Justice, William Barr, a conclu qu'il n'y a pas eu collusion entre la campagne électorale de M. Trump et Moscou, mais concernant l'obstruction de la justice, si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus. Fin de citation. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le japonais Suzuki vient de décider d'implanter une usine de production de véhicules au Ghana à travers une joint venture avec le français CFAO et le japonais Toyota. Les trois multinationales comptent faire de ce pays leur nouvelle plateforme d'expansion en Afrique subsaharienne. La Tribune écrit que c'est une belle opération pour le Ghana qui a déjà signé un mémorandum pour l'implantation d'une usine de production de véhicules par l'allemand Volkswagen. En Afrique australe, environ 500 000 hectares de culture viennent d'être emportés depuis le passage du cyclone tropical Idai, rapporte l'agence Bloomberg. Le phénomène, qui a déjà fait plus de 700 morts, fait planer le spectre de l'insécurité alimentaire dans la région, dans la mesure où 70% de la population dépendent de l'agriculture pour leurs revenus et leur emploi. Au Mozambique, le pays le plus touché, les importations de maïs cette saison pourraient atteindre 200 000 tonnes, alors qu'elles se situent d'ordinaire autour de 100 000 tonnes. Terminons avec le Parlement européen qui a donné hier son feu vert à la refonte du marché de l'électricité qui préserve les tarifs réglementés et prévoit une fin des subventions pour le charbon en 2025. La nouvelle législation veut développer un marché qui facilitera l'intégration d'une plus grande part des énergies renouvelables. Elle s'attaque aussi aux barrières qui bloquent les échanges commerciaux transfrontaliers en permettant à 70% de toute l'électricité de franchir librement les frontières internes de l'Union européenne.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Cyclisme pour commencer, le Rwandais Joseph Areruya sera au prochain départ de Paris-Roubaix.
Et oui, Joseph Areruya connaissait les pavés de Kigali. Eh bien, il va désormais découvrir ceux de l'enfer du Nord. À 23 ans, le Rwandais va rentrer dans l'histoire du cyclisme de son pays et du continent africain. Le 14 avril prochain, à Compiègne, traditionnelle ville départ de Paris-Roubaix, c'est la première fois qu'un coureur noir africain est prévu sur la reine des classiques. Avec ses 55 km de secteur caillouteux sur 257 au total, cette course est une épreuve purement technique, une affaire de spécialistes. Jamais en 116 éditions, un coureur d'Afrique noire n'avait pris le départ de la plus dure, la plus atypique classique du calendrier mondial.
Le deuxième tour de la CAN des moins de 23 ans s'est achevé hier.
Oui, plusieurs équipes ont validé leur billet en s'imposant à domicile après leur match nul à l'extérieur. C'est le cas de l'Algérie qui a battu la Guinée équatoriale 3-1, du Mali qui a écrasé l'Éthiopie 4-0, du Congo qui a disposé du Burundi 2-1. Il n'y a pas eu de miracle pour d'autres comme le Gabon, qui s'est contenté d'un match nul de 0-0 alors qu'il avait été balayé 4-0 par le Ghana à l'aller.
Sadio Mané a renversé le Mali en match amical.
Et oui, scénario de folie hier à Dakar, mené chez lui par le Mali 1-0 jusqu'à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Le Sénégal doit son salut à l'attaquant de Liverpool entré en cours de jeu. Sadio Mané a d'abord égalisé à la 88e avant de délivrer une passe décisive à Konaté dans les arrêts de jeu pour le 2-1 en faveur des Lions de la Teranga. De son côté, le Nigeria a fait chuter l'Égypte 1-0 à Saba. Même score pour la Côte d'Ivoire qui a reçu le Libéria à Abidjan, toujours un match amical.
Patrice Evra poursuivi pour injure homophobe.
La plainte pour injure publique à caractère homophobe a été déposée au parquet de Paris par les associations Stop Homophobie et Mousse, soutenues par le collectif Rouge Direct, qui réunit les anciens du Paris Foot Gay, ex-club amateur de la capitale. Ancien capitaine de Manchester United, Patrice Evra s'est déchaîné sur les réseaux sociaux après la victoire des Mancuniens contre le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Il avait ensuite posté un nouveau message pour s'excuser, assurant ne pas être homophobe. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Charlotte et San Antonio 125-116, Boston et Cleveland 116-106, Orlando et Miami 104-99, Toronto et Chicago 112-103, Milwaukee et Houston 108-94, et les Clippers et Minnesota 122-111, Atlanta et la Nouvelle-Orléans 130-120, Sacramento et Dallas 125 à 121, Denver et Détroit 95 à 92.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La scène politique togolaise est en ébullition. La coalition de 14 partis de l'opposition a explosé après la défection de plusieurs membres importants. Cette coalition avait vu le jour à la faveur des manifestations massives demandant le départ du président Faure Gnassingbé en 2017. Quelles sont les raisons de ces départs et quelles sont leurs conséquences possibles? Raissa Girondin a joint à Lomé Dani Aïda, analyste politique et membre de la société civile.
Après les élections législatives du 20 décembre 2018, les membres de cette coalition n'attendaient plus sur beaucoup de questions, notamment leur participation au processus politique, puisque, vous savez, une partie de cette opposition était présente à l'Assemblée nationale avant, donc les rapports de force étaient différents. Et par la suite, le fait que l'opposition ait remporté toutes les élections.
Certains leaders de l'opposition ont dit avoir pris de l'argent de l'extérieur. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça a jeté le doute sur l'intégrité de cette coalition?
Il y aurait eu des cadeaux entre griffes de certains chefs d'État de la sous-région africaine, dont la répartition n'aurait pas été au bout de certains. On a vu d'autres qui n'ont pas infirmé cela, mais en même temps, on dit qu'il y avait d'autres raisons. Donc, notre équipe est confirmée parce qu'il y a deux partis qui formellement ont dit qu'ils quittent la coalition, y compris l'ANC du Temple Fabre. Il y a aussi le parti de Togolais et Nathaniel Olympio. Beaucoup d'autres ne participent plus aux réunions. Donc je vois que la forme de discorde est allée assez loin.
Mais l'opposition togolaise a-t-elle les moyens de ses ambitions?
L'opposition est un homme battu, mais qu'elle n'arrive pas à capitaliser pour le moment parce que sur le plan stratégique, on voit qu'elle a du mal à s'organiser et à formuler des propositions concrètes, par exemple en termes de suivi ou de pression pour la mise en œuvre des réformes pour lesquelles le pouvoir s'est engagé depuis longtemps. Ses relations avec la CEDEAO qui a formé des propositions pour la révision constitutionnelle, ses relations ne sont pas au beau fixe. Donc, je pense que l'opposition souffre surtout d'une carence en matière de stratégie. Mais on espère que les prochains développements avec notamment le retour au Togo de l'ancienne ministre de l'Intérieur qui est maintenant carrément inscrit dans l'opposition, François Bocco pourrait contribuer à résorber cette situation.
Oui, l'ancien ministre François Bocco était en exil en France durant 14 ans. Quelles conséquences pourrait avoir ce retour sur la scène politique togolaise?
Pour avoir été un ministre de l'Intérieur, pour avoir appartenu au Fonds de défense et de sécurité du Togo, avec le soutien dont il a bénéficié de certaines diplomaties occidentales, on pense que c'est un acteur majeur dont l'implication dans le jeu politique au Togo pourrait changer beaucoup les données. C'est quelqu'un qui ne nie pas avoir participé à ce pouvoir, à ce régime-là, mais qui aujourd'hui est carrément rangé du côté du peuple togolais, d'une grande partie de la classe politique qui revendique des changements. Certains de ses proches ont même dit clairement qu'il doit se porter candidat à l'élection présidentielle 2020. Je pense que ça va chambouler la géopolitique du gouvernement national et puis les forces pourraient faire en sorte que l'alternance des Togolais soit revendiquée plus tard, enfin à venir.
C'était l'analyste politique Dani Aïda, joint à Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Dans l'extrême sud-est du Niger, nouvelle incursion meurtrière de membres de Boko Haram. Ces islamistes ont tué une dizaine de personnes, incendié un marché et enlevé au moins deux femmes. Idriss Fall a fait le point avec Hissène Boukar, maire de la commune rurale de Guesskérou dans la région de Diffa, près du Nigeria.
C'était le samedi nuit au dimanche. Donc, au niveau de la commune, dans le village de Alaïminari, il y a eu des maisons qui ont été incendiées par les BH et il y a eu 5 personnes qui ont trouvé la mort. Et au niveau de Ngagam aussi, c'était la même nuit. Tout le marché a été brûlé et il y a 6 qui ont été tués, 6 individus à Ngagam. Et ils ont enlevé deux femmes. Ça, c'est la nuit du samedi au dimanche.
Et comment est-ce qu'on sait que ce sont des membres de Boko Haram?
Oui, bon, on les a enlevés quand il y avait certains qui étaient recoupés. Selon le renseignement, c'est eux, avec des tirs en l'air, ils font des flottants et ils ont des flammes, ils ont pris des bois. Quelques maisons sont là en train de mettre, c'est comme ça.
Et l'armée du Niger n'est pas présente sur place?
Quand on a eu l'écho, on les a informés. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils ne prennent pas le temps dans 5-10 minutes déjà, dès que tu viens, ils traversent. C'est comme c'est à côté de la Koumarougou. C'est à peu près à peine 5 km du bord de la Koumarougou. Et dès qu'ils traversent, ils sont dans un pays étranger.
Et après, quand ils font leurs attaques, ils retournent au Nigeria?
Dès qu'ils attaquent, comme c'est à côté de la frontière, et dès qu'ils rentrent au Nigeria, là-bas, c'est du contrôle de l'autre côté.
La rivière Koumarougou, c'est la rivière qui sépare le Niger du Nigeria.
Voilà, c'est ça, la frontière artificielle qui sépare le Niger et le Nigeria. Maintenant, il n'y a pas l'eau, ça tarit, donc c'est pour eux qu'ils peuvent traverser dans n'importe quelle direction.
Et quelle est la situation globale dans votre commune?
Bon, maintenant, il y a, compte tenu vraiment du choc, la population, il y a une partie qui est là rentrée, la plus grande partie sont rentrées à Difa. Il y en a d'autres qui sont partis un peu au nord, dans des villages, dans des parents et autres, dans des camps des parents.
C'était Hissène Boukar, maire de la commune rurale de Guesqueru, dans la région de Difa, au Niger.
Raïssa Girondin avec vous. Cette semaine, dans ce Washington Forum, nous parlerons du Mali. Après le massacre samedi dernier de plus de 160 personnes, toutes de la communauté Peul, dans le village d'Ogossagou, le gouvernement malien a remplacé les principaux chefs de l'armée et dissous la milice d'Ogon, Danane Ambassagou, accusé d'avoir mené cette attaque, mais le responsable de cette milice dément toute implication dans les tueries. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement? Ce drame était-il évitable? Quelle est la solution à privilégier pour apaiser la situation dans le centre du Mali? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Tchad, les victimes des crimes du régime de l'ancien président Hissène Habré multiplient ces derniers temps des actions pacifiques pour exiger l'exécution de l'arrêt de la Cour criminelle spéciale de mars 2015. 20 ex-agents de la DDS, la police politique de l'ancien régime, ont été condamnés pour torture, séquestration, détention arbitraire et autres crimes commis sous le règne de Hissène Habré de 1982 à 1990. Les victimes accusent les autorités judiciaires d'indifférence. De N'Djamena, André Kodmadjingar fait le point.
4 ans après la condamnation de certains de ces agents à des travaux forcés allant de 5 à 20 ans et d'autres à perpétuité par la Cour criminelle spéciale de N'Djamena, les victimes affirment n'avoir vu aucune volonté dans l'exécution de cette décision, ni la saisie et la confiscation de leurs biens, ni l'édification d'un monument sur le site de la fosse commune à la sortie nord de N'Djamena en leur mémoire, moins encore l'ancien bâtiment de la DEDES qui devra être transformé en un musée. Même la mise en place d'une commission qui sera chargée d'exécuter ce présent arrêt ordonné par la Cour tarde à voir le jour. Visiblement affaiblies, les victimes ne se découragent pas. Elles organisent des conférences et sittings pour se faire entendre. Coup de gueule de quelques-uns.
Presque 40% de ces femmes que vous voyez ici vêtues en noir, elles sont toutes malades. Il faut que les dommages soient versés. Mais là, depuis 4 ans, on attend.
Il faut que ça s'arrête. Ça fait 4 ans que le jugement a été fait.
Nous ne voulons pas inciter le gouvernement ni quoi que ce soit. Mais nous demandons la réparation.
On est vraiment désolé. Le gouvernement danse. Il tape le tam-tam. Il chante, lui saute et ça ne donne rien.
Ces ex-agents de la DDS sont condamnés à payer aux victimes une somme de 75 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La Cour déclare l'État tchadien civilement responsable et doit s'exécuter à hauteur de 50%. Pour le président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré, Clément Ndokot Abayfouta, non seulement la décision tarde à être exécutée, mais même certains condamnés sont en liberté.
Quelqu'un qui a violé votre sœur, votre mère, tué votre père, arraché tous vos biens, a été jugé, condamné et se trouve dehors de la révolte.
Est-ce qu'on a organisé le procès là pour cracher sur la mémoire des victimes ou alors pour plaire à l'opinion internationale?
Nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement tchadien puisse ne pas respecter ses engagements et d'instaurer une impunité en plein soleil.
Clément Ndokot Abayfouta lance par ailleurs un appel à la communauté internationale d'aider les victimes qui meurent à petit feu d'entrer dans leurs droits.
Depuis qu'on n'a pas de Premier ministre, nous ne savons pas qui est notre répondant. Et en ce moment, nous avons perdu à peu près 100 personnes parce que la maladie ronge les gens et puis les gens meurent. Moi, je crois que la communauté internationale, comme elle a fait pour le procès de Dakar, qu'elle utilise les moyens pour faire la pression sur le gouvernement tchadien afin que ces victimes puissent entrer dans leurs droits. Et si rien n'est fait, nous avons d'autres actions à mener, jusqu'à ce que le gouvernement nous prête une oreille attentive.
Difficile d'avoir un répondant officiel, sollicité à plusieurs reprises par VOA Afrique pour avoir les raisons de l'inexécution de cet arrêt rendu il y a 4 ans, les autorités judiciaires ne souhaitent pas se prononcer. André Kodumadjingar Ndjamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien, 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena, au Tchad, sur 93.1 FM.
La pollution plastique continue de s'aggraver malgré les initiatives de lutte contre ce phénomène dans le monde. De l'Afrique à l'Amérique du Sud, les efforts locaux pour collecter et éliminer les déchets plastiques n'ont pas encore atteint les résultats escomptés, mais leur impact est croissant. Reportage de Kevin Enoch, repris ici par Arzuma Compaoré.
Au Gabon, une armée de volontaires s'est réunie toutes les 2 semaines pour nettoyer les plages de Libreville. Le réseau pour l'environnement et le développement est un groupe caritatif de 300 personnes qui souhaitent transformer les plages de Libreville en une destination touristique. Edou Haf est le responsable du réseau gabonais pour l'environnement et le développement.
On est nombreux, on le fait bien, et puis après, on ne donne rien à personne. On est une ONG, on n'a pas de moyens, on ne donne rien à personne. Alors si on a la possibilité maintenant de donner au moins 100 000 francs aux gens, alors pourquoi ne pas organiser une toute petite compétition en sachant que non seulement ceux qui le font déjà de manière bénévole, seront là, ils pourront être encore plus motivés, mais aussi ceux qui ne le font pas déjà, donc ça nous ferait un plus.
À l'heure actuelle, les déchets sont acheminés dans une décharge, mais le chef du groupe Edou Haf affirme que l'autre objectif, c'est de les recycler.
Toutes ces ordures vont se retrouver à la poubelle, on travaille avec la société de collecte, et nous on souhaiterait bien sûr transformer surtout les déchets plastiques, parce que ça constitue une opportunité pour nous, donc on est en train de travailler, tisser des partenariats à gauche et à droite pour que peut-être dans 1 mois, 2 mois, on puisse transformer ces plastiques.
Et ici, le plastique atteint même les îles inhabitées de Galapagos, au large des côtes de l'Équateur. Nichés parmi les cormorans et les otaries, des volontaires ramassent des déchets de quelques 3 milliards de kilogrammes jetés dans l'océan chaque année. Charline Zuniga est une volontaire.
Nous avons jeté tellement de déchets dans la mer qui ont fini par rejoindre les côtes inhabitées. C'est très triste de voir des animaux morts, voir des nids d'oiseaux qui sont mélangés avec des déchets.
Et ici, au Nigeria, la société Recyclers empêche les plastiques d'atteindre l'océan. La société collecte les déchets plastiques des habitants de Lagos en échange de points échangeables contre de l'argent, de la nourriture ou des articles ménagers dans les magasins locaux. C'est un marché en croissance. Bilekis Adebiya Abiola de Recyclers.
Il y a tellement de gens ici qui produisent du plastique et cela va continuer au cours des années à venir. Notre demande en plastique augmentera également. Ainsi, chez Recyclers, nous espérons un jour où nous aurons une économie circulaire où les déchets que nous générons sont recyclés et utilisés pour créer de nouveaux emballages.
On estime à environ 300 millions de tonnes la production annuelle de plastique dans le monde. C'est un problème qui ne disparaîtra pas avant des milliers d'années, mais ces volontaires essaient d'aider un déchet plastique à la fois.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TI. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.